expedition bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre à travers un incroyable système de ventilation et de drainage.
Vous allez vous dire, ça y est, il a perdu la boule.
Eh bien pas du tout. Système incroyable car tout à fait naturel et réalisé par de minuscules insectes que nous estimons bien trop souvent comme nuisibles. J'ai nommé les termites et leurs fabuleuses termitières. Ces formidables structures font très souvent parler d'elles, tant elles fascinent et interrogent sur leur complexité. Ces constructions permettent vraisemblablement un contrôle fin de la température, de l'humidité et des concentrations en gaz à l'intérieur du système. Deux récentes études, l'une menée par une équipe américaine de Harvard, l'autre française de Toulouse, mettent en lumière les mécanismes permettant à ces insectes de faire sortir de terre ces habitats très performants. C'est parti.
Alors Maxime, quelle forme prennent ces découvertes récentes qui font tant jaser dans le monde de l'aération ?
Alors tu fais bien de parler de forme puisque c'est finalement sur cette question que s'est penchée l'équipe de recherche dirigée par le professeur Mahadevan de l'université de Harvard. Selon eux, les variations de température à l'extérieur durant la journée influeraient sur la température, l'humidité et la circulation de l'air à l'intérieur de la termitière. Donc jusque-là, rien de bien surprenant me direz-vous. Et pourtant, l'air qui circule à l'intérieur des termitières transporte, outre du dioxyde de carbone par exemple, des phéromones qui, fonction de leur nature et de leur concentration, vont modifier le comportement de nos insectes et les amener à renforcer les parois de certaines galeries plutôt que d'autres, ce qui aura pour effet de moduler la circulation interne de l'air et donc par là même à nouveau des phéromones. Les termites vont alors se retrouver à construire et à renforcer d'autres zones et ainsi de suite. Nous avons visiblement affaire à une boucle complexe de rétroaction qui serait à l'origine de la forme si particulière des termitières, un phénomène purement physique donc. Et oui, vous ne pouvez pas, quelle que soit l'estime que vous portez à ces petites bestioles, leur attribuer des talents de mathématicien et d'architecte aussi facilement. Alors bien évidemment, les chercheurs de Harvard ont modélisé ce phénomène et ont fait varier les conditions extérieures du système et ont ainsi réussi à obtenir des constructions de termitières aux formes très diverses que nous pouvons retrouver dans la nature. Ce qui vient a priori valider leurs travaux, bien que la modélisation de la circulation de l'air à l'intérieur de la termitière repose sur des hypothèses à valider.
Et du coup, tout ça ne reste que pure spéculation ?
Alors non. Et ça a cela d'extraordinaire qu'une équipe de recherche française menée par Guy Thérolaz, chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université de Toulouse, s'est penchée à peu près au même moment sur la structuration des parois des termitières pour appréhender les échanges de gaz et la régulation thermique avec le milieu extérieur. Ils ont donc pour ce faire numérisé avec une très grande précision l'intérieur de deux termitières construites par la même espèce, Trinervite hermes germinatus, il va vraiment falloir que j'arrête avec les noms d'espèces en latin. Donc je vous passe les noms rocambolesques des outils d'imagerie permettant ces modélisations. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les résultats. Donc les chercheurs découvrent que les parois analysées présentent des pores de petits, donc de taille micrométrique, qui se forment dans les boulettes de matériaux que fabriquent les termites avec leur salive, et de plus gros, pluris à centimicrométriques, et interconnectés aux jonctions entre ces boulettes d'argile. Les parois de la termitière sont donc poreuses, ce qui favorise l'évacuation du gaz vers l'extérieur, notamment du CO2. Les simulations de la circulation de l'air dans la termitière mettent en évidence deux mécanismes différents selon la force du vent. Lorsque celui-ci souffle fortement sur la termitière, nous avons un phénomène de convection. Et lorsque celui-ci souffle de façon moins intense, la diffusion prend le relais. Tout cela est permis du coup grâce à la perméabilité des parois.
Et du coup, cette porosité des parois, est-ce qu'elle ne présenterait pas un risque pour la colonie en cas, mettons, de pluie ou de forte chaleur ?
Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrions penser, non. L'air qui est prisonnier au niveau des pores joue un parfait rôle d'isolant thermique et finalement protège la colonie du coup de chaud en maintenant une température intérieure quasiment constante. Ces pores permettent donc un contrôle thermique efficace de la termitière. En ce qui concerne la pluie, eh bien là encore, ces pores ont plutôt tendance à sauver la mise à nos petites amies. Les matériaux utilisés par les termites pour leur construction sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau. Mais les chercheurs ont démontré expérimentalement que les pores interconnectés et de relativement grande taille permettent le drainage rapide de l'eau vers les pores micrométriques par capillarité. Ainsi, la pluie n'entrave pas la circulation de l'air de la termitière et celle-ci sèche beaucoup plus vite. Nos amis architectes ont a fortiori tout intérêt à s'inspirer de cette mécanique pour les constructions à venir, que nous imaginons de la même manière que les termitières, pérennes, autonomes et économes en énergie. Plutôt intéressant donc au regard des problématiques écologiques et climatiques actuelles.
On y pensera peut-être pour le chauffage de la salle concours. Merci beaucoup Maxime pour ce petit point de termite.